toca a ti.
Bonsoir. La tribune de la presse de ce vendredi 21 avril 2006 parle de trois sujets. Visite de trois jours à Kinshasa du président de la Commission de l'Union africaine, M. Alpha Omar Konaré. Controverse autour de la date du début de la campagne électorale pour la présidentielle. Enfin, menace de boycott par la presse durant trois jours des activités électorales. Une menace proférée par la haute autorité des médias. Ceci, si le gouvernement ne met pas à la disposition de la presse un montant de 4 millions de dollars américains pour couvrir la campagne électorale. Autour de moi pour en parler, Rose Lukanu, directrice générale de la radio-télévision Mwangaza de Lubumbashi au Katanga. Elle intervient de la capitale du cuivre au téléphone. Bonsoir Rose Lukanu.
Bonsoir Claude.
Wechi Amba, rédacteur en chef de congoindépendant.com. Un journal sur Internet. Il intervient de la Belgique à partir du téléphone. Bonsoir, Wechi Amba.
Oui, bonsoir, monsieur Kialva.
Enfin, Félix Kabouizi, qui est ici dans notre studio de Kinshasa. Il est directeur de publication du quotidien d'information générale La Référence Plus. Bonsoir, Félix Kabouizi.
Bonjour, Claude.
Le président de la Commission de l'Union africaine a effectué pendant trois jours une visite de travail à Kinshasa. Au cours de cette rencontre, M. Alpha Omar Konaré a rencontré le chef de l'État congolais, le vice-président de la République, ainsi que plusieurs autres personnalités politiques, dont le président de l'UDPS, M. Étienne Tshisekedi, suivant le bilan qu'il fait, propos recueillis par notre confrère Jacques Matante.
Je repars satisfait de l'entretien que je viens d'avoir avec le président de la République. Je viens m'informer auprès de lui de comment tout ce processus est en train de marcher. La RDC compte beaucoup pour nous. Quand j'ai dit « nous » pour l'Union africaine, et cela compte tenu de la place de ce grand pays et de ce grand peuple dans l'histoire de notre continent. Je suis convaincu que si le processus qui est en cours, et je n'ai pas de doute qu'il en sera ainsi, va jusqu'à son terme, ce sera peut-être le plus grand événement de ce début du siècle.
Nous allons directement à Lubumbashi retrouver Rose Lukanu Tshakwiza. Rose Lukanu, est-ce que vous êtes d'accord avec le président de la Commission de l'Union africaine qui dit que si le processus électoral en République démocratique du Congo réussit, donc il qualifie cela de plus grand événement?
Effectivement, ça c'est pas... Alpha Omar Konaré n'est pas le premier à le dire. Ça sera effectivement l'événement du siècle, si on peut le dire. Il faut que le processus électoral réussisse parce que tout le monde l'attend, tout le monde, en commençant par l'Afrique. La RDC étant au cœur de l'Afrique, il faut que ce processus électoral puisse aboutir et bien afin que tout le monde soit content.
Voilà, mais est-ce qu'il n'exagère pas un peu? Est-ce que la RDC a autant d'importance pour qualifier cet événement de grandiose si les élections étaient organisées en République démocratique du Congo? Est-ce que la RDC n'est pas un pays comme tous les autres?
Je ne pense pas qu'on aurait plutôt exagéré. Non, ce qu'il dit est juste. C'est vrai que la stabilité de la RDC, du moins beaucoup de pays dépendent de la stabilité de la RDC et tout le monde a intérêt à ce que ça marche. Mais ce qui par contre n'est pas nouveau, justement dans ce ballet diplomatique qu'on a vécu depuis le processus électoral, bon, que lui vienne, qu'est-ce qu'il a apporté de plus par rapport à ceux qui l'ont précédé? Le tout dernier à être passé, c'était c'était Kofi Annan, le secrétaire général des Nations Unies. Et avant lui, on a vu tout un ballet diplomatique avec l'Union européenne et autres. Alpha Omar Konaré, qu'est-ce qu'il apportera de plus? Ce qu'il dit est vrai, c'est profond, c'est pour ça que tout le monde s'implique afin que le processus électoral en RDC réussisse. Je ne pense pas que ce soit du tout exagéré. C'est juste. Et nous devons prendre conscience de ça.
Voilà, nous partons directement en Belgique où intervient au téléphone notre confrère Wechi Amba. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de congoindépendant.com, un journal sur Internet. Qu'est-ce que Alpha Omar Konaré apporte de plus comme s'interroge notre consoeur Rose Lucano Chakwiza?
Ce que j'aimerais ajouter, je vais légèrement prendre le contre-pied de ma consoeur. Moi, je crois que on devrait parler plutôt d'un balai ou d'un défilé de médecins, plutôt que d'un balai diplomatique. Au fond, on assiste à un défilé de médecins sur au chevet du malade Congo. On a vu Kofi Annan, parlons pas de lui, Michel, le commissaire européen, on a vu le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso. Donc je disais que moi je crois que ce défilé de personnalités internationales au Congo, ça doit nous affliger, nous les Congolais. Ça ne doit pas honorer la classe politique congolaise. Le Congo est redevenu le grand malade de l'Afrique noire, sans jeu de mots je dirais, le grand mouton noir de l'Afrique centrale. Et tout ce monde qui passe, c'est pour voir si on nous infantilise au fond. On vient voir si les petits-enfants congolais font ce qu'il faut pour que le processus électoral se passe selon les normes. Moi, je dis, on ne doit pas être du tout fier. Voilà le moins que je puisse dire de ce passage de toutes ces personnalités étrangères. La terre entière n'a que pitié vis-à-vis de nous. Et il nous manque, je crois, un minimum de respect pour nous-mêmes pour que nous puissions nous réveiller. Au fond, le message qu'on nous envoie, c'est que les Congolais sont incapables de résoudre leurs problèmes eux-mêmes. Et la communauté internationale a pris la place des Congolais. Voilà ce que je peux dire.
Félix Kabouizi, j'en viens maintenant à vous. Vous êtes directeur de publication du quotidien d'information générale, référence plus, paraissant ici à Kinshasa. Est-ce que vous pensez que ça ne doit pas nous réjouir, tout ce défilé de personnalités politiques?
Bon, écoutez, je partage en partie le point de vue de Wechi, et je partage également le point de vue de Rose Lucano qui relayait celui de Alpha Omar Konaré. Et je voudrais d'abord commencer par le premier. Effectivement, les prochaines élections seront un grand événement pour notre pays à deux titres. Le premier, c'est que, vous savez, c'est depuis l'indépendance que notre pays n'a jamais connu d'élections pluralistes. Donc 46 ans après, qu'on soit aujourd'hui à deux pas d'organiser les élections pluralistes, c'est quand même un grand événement. Puisque avant d'arriver à ces élections, on est passé par trois rébellions. Il y a eu d'abord la rébellion de 64, de Moulélé, il y a eu la rébellion de la FDL, il y a eu la contre-rébellion du RCD et du MLC. On est passé par trois rébellions. On est passé aussi par deux dictatures, la dictature du président Mobutu et la dictature de Mzé Laurent Désiré Kabila. Donc qu'on arrive vraiment aujourd'hui à être en mesure d'organiser les élections dans notre pays, c'est un grand événement. Le deuxième élément pour lequel je partage également le point de vue d'Alpha Omar Konaré, c'est que la transition chez nous a commencé depuis 1990. Nous en sommes aujourd'hui à la 16e année. Lorsque vous comparez cette situation de notre pays par rapport à d'autres pays africains qui ont commencé la transition en même temps que nous, en 1990, il y en a qui ont déjà organisé deux ou trois fois des élections. Donc c'est des gens qui ont quand même un pas quand même important par rapport à la démocratisation, par rapport à l'expérience démocratique. Donc vraiment, si aujourd'hui on peut arriver chez nous à organiser des élections, ce sera quand même un événement important. Mais là où il faut effectivement dire que ce balai diplomatique ou comme Wechi dit, ce balai de médecins infantilise notre pays, c'est vrai. Pourquoi ça infantilise notre pays? C'est parce que, quelque part, les responsables congolais ne font pas preuve de dialogue. Je pense que beaucoup de problèmes auraient pu se résoudre si vraiment il y avait une ouverture de dialogue, s'il y avait un esprit de compromis, un esprit de dialogue. Pourquoi tous ces gens viennent? Ils viennent pour s'assurer que le processus électoral va se passer sans beaucoup de problèmes. Mais malheureusement, nous sommes aujourd'hui conscients que le climat politique est encore assez lourd. Et donc je pense que si l'apport des uns et des autres peut faire en sorte que les élections se déroulent chez nous dans un climat apaisé, ce serait une bonne chose. Mais Félix Kabouzi, la tempête des tropiques, par exemple, parue le jeudi 20 avril, c'est-à-dire hier, avait titré de cette manière « Face à l'avenir incertain de la République démocratique du Congo, inquiétude justifiée des Africains ». Voilà, est-ce qu'il y a quand même un sentiment d'inquiétude des Africains? Est-ce que vous pensez que…
Bien sûr, même déjà de nous, Congolais. Vous pensez vraiment qu'on peut aller aux élections aujourd'hui en laissant un certain nombre d'acteurs de côté et être sûr vraiment que même les autorités élues vont gouverner le pays sans problème? Non. Moi, je pense que l'inquiétude est là. Il aurait été intéressant, et c'est d'ailleurs le message pratiquement de toutes ces personnalités, que ce soit Louis Michel, que ce soit Omar Konaré ou Guénot, lorsqu'ils sont passés par ici, ils ont insisté pour des élections inclusives, pour des élections qui prennent en compte tous les acteurs politiques. Mais nous nous trouvons malheureusement devant des élections qui vont se dérouler aujourd'hui sans l'UDPS, sans Étienne Tshisekedi. Ça crée des inquiétudes, ça doit tellement créer des inquiétudes. Parce que vous savez que l'UDPS est un parti qui a beaucoup lutté pour la démocratie. Et qu'aujourd'hui, au moment où on doit instaurer vraiment la démocratie dans notre pays, que ce parti-là ne puisse pas être là, c'est quand même un sujet d'inquiétude.
Wechi Amba, est-ce que vous pensez que le président de la Commission de l'Union africaine est parti beaucoup plus rassuré qu'il est arrivé ici?
Écoutez, rassuré, je ne sais pas quel était le but de son séjour, à part de voir si le processus fonctionne normalement. Et puis je me pose la question, est-ce qu'il a pu obtenir des réponses aux questions qu'il attendait, dans la mesure où les Congolais ne financent pas les élections, donc les Congolais ne sont pas maîtres du processus électoral. Moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il attendait vraiment de savoir. Ici il a rencontré M. Tshisekedi. Apparemment, c'est un non-événement. Ça n'a apporté rien du tout. Alors, je ne sais pas. Et à entendre les propos qu'il a tenus à la presse, que l'absence de Zin n'empêchera pas, ne pourra pas entacher la légitimité du résultat des élections, je le cite de mémoire, je dis, écoutez, je ne vois pas ce qu'il y a de neuf. Je dirais que le passage de Konaré, c'est un pseudo-événement, à mon humble avis.
Voilà. Rose Lucano, est-ce que vous avez entendu, vous avez suivi les propos de notre confrère Wechi Amba, qui dit que nous sommes un grand malade sur qui l'Afrique et la communauté internationale doivent veiller?
Ok, je suis d'accord avec Wechi sur son dernier argument, c'est vrai. C'est pour ça que je disais que est-ce que Alpha Omar Konaré a porté de plus par rapport à tous ceux qui l'ont précédé, qui semblaient vraiment avoir la solution, et qui en définitive finalement, c'est nous-mêmes les Congolais qui devions avoir la solution à nos problèmes. Nous, j'entends par nous, c'est dire les protagonistes de la scène politique aujourd'hui.
Est-ce que vous pensez que, comme l'a souligné tout à l'heure Wechi Amba, Alpha Omar Konaré a déclaré que même si certains leaders de l'opposition politique ne participaient pas à cette élection, cela n'entacherait pas la légitimité des personnes qui seraient élues. Est-ce que vous êtes du même avis que le président de la Commission de l'Union africaine?
Oui, parce que, écoutez, ce processus, il faut finalement qu'il s'arrête quelque part. Il est de vœu de tout le monde qu'il soit inclusif, que tout le monde puisse participer, notamment l'opposition politique de l'UDPS, c'était dit notamment, mais bon, je pense que tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. En commençant, c'était ça, ses compères congolais. Mais si le monsieur ne sait pas, franchement, ne se décide toujours pas à participer, je ne crois pas que ça puisse entamer la légitimité de ce qui sera ici demain des urnes. Il faut qu'on avance quelque part. C'est qu'il dit, on va au-delà de lui. Des partisans même de l'UDPS, qu'est-ce qu'ils nous prouvent s'ils ne se sont pas
excusez-moi.
Vous avez suivi parmi beaucoup des candidats indépendants.
Excusez-moi.
Ce sont ces gens-là qui ont cru justement qu'ils allaient rater un grand événement politique du siècle et que malgré l'ordre donné par leur mouvement politique, qui se sont fait enrôler et pour pouvoir participer aux élections, si pas pour élire ou se faire élire.
Voilà, rapidement.
Oui, du allez-y. Moment où on a la légitimité, je ne crois pas que cela puisse du tout être entamé, pas du tout.
Voilà, rapidement, Félix Kabwizi, avant que nous puissions terminer la première partie de cette émission. Vous avez quelque chose à ajouter?
Oui, écoutez, je pense qu'effectivement, ça ne devrait pas entamer la crédibilité des autorités qui seront élues, mais je dis que ces autorités auront des difficultés à pouvoir gérer dans la paix leur victoire, en tout cas, il risque de se retrouver dans un cycle de contestation, puisque vous savez très bien que le processus électoral devrait régler le problème de légitimité, mais également ramener la paix, donner aux autorités élues la possibilité de travailler pour le développement du pays. Mais si on a en face un certain nombre de partis politiques ou de leaders de partis politiques qui se mettent pendant 5 ans à contester systématiquement le travail des autorités élues, il est clair qu'ils n'auront pas assez de temps probablement pour pouvoir travailler pour l'avancement du pays. Je crois que le mieux aurait été vraiment qu'on fasse également preuve de compréhension. Je vois par exemple le cas du président Joseph Kabila. Le pays a quand même fait suffisamment d'accommodements pour permettre au président Joseph Kabila de participer aux élections. Il y a eu d'abord un premier accommodement sur l'âge des candidats à président de la République. Vous savez que la tradition politique dans notre pays veut que les candidats à la magistrature suprême aient au minimum 40 ans. Mais on a dû adapter, n'est-ce pas, un article de la Constitution pour lui permettre d'être candidat. Il y a eu également des adaptations qui ont été faites pratiquement à tous les niveaux, hein, quant à ce qui concerne le niveau d'études, par exemple. Il y a eu aujourd'hui aussi, vous le savez, des adaptations qui ont été faites par rapport au statut militaire. Mais apparemment, il n'y a rien qui a été fait comme adaptation, en tout cas accommodement, pour rencontrer le problème posé.
Mais cela ne va pas entacher la légitimité.
Non, je dis bien que ça ne va pas entacher, mais je constate seulement que ce soit au niveau de la CEI, que ce soit au niveau de la communauté internationale, ou même au niveau des acteurs politiques congolais, on n'a pas du tout accordé la moindre concession à l'UDPS qui ne demande que la réouverture pendant 2, 3, 4 jours pour récupérer quelques membres, quelques Congolais qui ne sont pas fait enrôler. On aurait pu faire aussi le même accommodement pour rencontrer les préoccupations de Tshisekedi qui ne sont pas impossibles à rencontrer, à mon avis.
La Haute Autorité des médias et la Commission électorale indépendante n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la date du début de la campagne électorale pour la présidentielle, alors que la CEI avait décrété son lancement le 17 avril dernier, après la publication de la liste définitive des candidats président de la République le 15 avril. Par contre, la Haute Autorité des médias affirme que ce n'est pas encore le cas. Pour mettre fin à ce débat, la CEI a saisi le Parlement pour se prononcer. Quel est le problème? Explication dans ce papier d'analyse. Selon l'article 28 de la loi électorale, la campagne électorale débute 30 jours avant les débuts du scrutin et se termine 24 heures avant les débuts de ce scrutin. Par exemple, si l'élection présidentielle débute le 2 juillet 2006, la campagne électorale devra logiquement commencer le 2 juin 2006 et devra se terminer le 1er juillet 2006 à minuit. Cependant, l'article 110 de la loi électorale stipule que, sans préjudice des dispositions de l'article 28 de la présente loi, la campagne électorale est ouverte 24 heures après la publication de la liste définitive des candidats. Or, la liste définitive des candidats pour l'élection présidentielle a été publiée par la Cour suprême de justice le 15 avril dernier. La CEI a donc lancé le début de la campagne électorale pour la présidentielle le lundi 17 avril 2006. Mais la Haute Autorité des médias affirme le contraire. Pour elle, la campagne électorale n'a pas encore débuté. Elle pouvait débuter si la liste définitive des candidats à la présidentielle était publiée, ce qui est le cas aujourd'hui, mais aussi si le calendrier électoral était connu, ce qui n'est pas encore le cas à ce jour. Voilà, je reviens à vous, Wechi Amba. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef d'un journal qui paraît sur Internet, congoindépendant.com. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette confusion qu'il y a autour de la date du début de la campagne électorale pour la présidentielle? On sent que la CEI et la commission, la Haute Autorité des médias n'arrivent pas à se mettre d'accord.
La première observation que je pourrais faire, c'est un peu répéter ce que M. Raphaël Louloulou, le rapporteur de l'Assemblée nationale, a fait, je crois, hier ou avant-hier sur les antennes de Radio Capi, en disant que il faut le calendrier électoral et il faut que tous les textes soient publiés dans le moniteur, enfin moniteur, le journal officiel. Et puis que les candidats soient notifiés que aussi longtemps que tous ces actes ne seront pas accomplis. Pour eux, la date n'est pas encore arrivée pour le démarrage de la campagne électorale. Mais d'autre part, je dis ceci, il y a un intervenant, ou je crois une dame de la CI qui a dit, il y a le problème de calendrier. C'est le calendrier qui permettra à la population de savoir les élections, la campagne électorale commence du 20e à la veille du 20e. Mais tant qu'il n'y a pas de calendrier électoral, comment peut-on dire aujourd'hui que la campagne commence? Ça va commencer pour se terminer quand? Par rapport à quel document? C'est ça aussi le problème. Mais moi, je crois que l'autre problème, c'est, ça revient encore au problème de qui finance les élections. Les élections se passent chez nous, au Congo, mais ceux qui financent sont à l'étranger. Je crois que certainement, la CEI doit être confrontée à un problème. Comment fixer la date, publier le calendrier électoral, alors que les bulletins de vote ne sont peut-être pas encore imprimés, parce qu'il faut quand même 25 millions de bulletins. Hein, les bulletins de vote ne sont pas encore dispatchés à travers les 160 circonscriptions électorales, si ma mémoire est bonne. Je crois que c'est tout ça peut-être qui fait l'embarras de la CEI. Et enfin, sur le plan de fait, la campagne électorale a déjà commencé, parce que quand vous visitez certaines télévisions privées appartenant à certains animateurs des institutions de la transition, la propagande est déjà lancée. Vous pouvez visiter le site du président de la République, vous verrez que la propagande est lancée. Donc moi je crois que finalement c'est de l'hypocrisie tout ça.
Voilà. Rose Lucano Chakwiza, je rappelle que vous êtes directrice générale de la radio-télévision Mwangaza de Lubumbashi. Quelle est votre interprétation au sujet de cette confusion autour des articles 28 et 110 de la loi électorale? Est-ce que, d'après vous, la commission électorale indépendante a frappé à la bonne porte pour demander à ce que le Parlement se prononce sur ces deux articles, ou fallait-il plutôt que la CEI s'adresse à la Cour suprême de justice?
Je pense que la CEI est allée un peu trop vite en besogne. Il n'avait, c'est vrai, qu'à se mettre un peu d'accord au sein de son institution sur l'interprétation de sa propre loi. Apparemment, la CEI ne maîtrise pas elle-même sa loi. Parce que c'est vrai, l'article 28, il dit ceci, et l'article 110, qui parle sans préjudice des dispositions justement de l'article 28 et qu'on pouvait déjà passer à la campagne électorale une fois la liste est publiée. Mais il y a un autre article, l'article 108, qui dit que la publication, là, elle ne doit pas se faire que par la voix des ondes, c'est-à-dire un monsieur de la CEI, je ne sais pas qui encore, le rapporteur, quel rapporteur encore, qui annonce comme ça, par la voix des ondes, le début de la campagne, non, de la campagne électorale, ça ne se fait pas comme ça. Il faut d'abord publier la liste des candidats retenus par le journal officiel. Et qu'après seulement, pouvoir, c'est que la presse devait relayer, et puis après, pouvoir passer à la campagne en bonne et due forme. Et puis quand on compte quand même, la loi électorale dit qu'il faut 30 jours de campagne électorale. Je ne crois même pas que dans les chefs de candidats présidents, ils seront contents d'avoir deux mois et demi de campagne. Mais si j'ai bien entendu ce que Wichi disait à la fin, j'ai cru entendre dire que la campagne était déjà amorcée officieusement.
Officieusement, oui.
Écoutez, c'est pas un secret pour personne. Les gestes qu'on fait à gauche, à droite, aujourd'hui, tout n'est pas si innocent que ça. Ben, attendons quand même la campagne officielle, un mois pour les candidats présidentiels, et ça serait bon. Je pense qu'au niveau de la CEI, il fallait qu'ils mettent un peu, qu'ils harmonisent le tout. Et puis maintenant, voilà, une fois la Haute Autorité des médias conteste là, on va poser la question au Parlement, ben oui, je crois que c'est au Parlement, une fois de plus, de se prononcer, étant donné que cette loi a été approuvée par les parlementaires.
Voilà, Félix Kabouizi, je rappelle que vous êtes directeur de publication du quotidien d'information générale Référence au Plus, paraissant ici à Kinshasa. Est-ce que vous pensez que c'est la publication d'un calendrier électoral fixe et définitif qui doit en principe fixer les débuts de la campagne électorale?
Bon, écoutez, il y a un problème d'interprétation de ces deux ou trois articles qui posent problème. Il y a un article qui dit que la campagne commence aussitôt après la publication de la liste, c'est l'article 110. Et puis l'autre qui dit qu'il faut qu'il y ait un calendrier électoral avant de débuter officiellement la campagne. Moi, je pense que dans les deux cas, au jour d'aujourd'hui, un candidat président de la République qui débuterait sa campagne, il est toujours dans la loi. Il est toujours dans la loi. Non, il peut évoquer la disposition, les dispositions de l'article 110 pour justifier le début de la campagne qu'il mènerait.
Donc, vous voulez dire par là que ces deux articles favorisent une certaine confusion?
Non, je crois que la confusion est plus dictée par la non-maîtrise du processus, en tout cas de ces étapes essentielles par la CEI. Effectivement, il fallait qu'il y ait un calendrier électoral. La CEI aurait pu, avant par exemple la publication de la liste, ou faire coïncider la publication de la liste des candidats président de la République avec l'entrée en vigueur du calendrier électoral. Donc, probablement que la CEI ne maîtrise pas. Et rappelez-vous combien de fois on est allé de prolongation en prolongation. L'enrôlement des électeurs a connu plusieurs semaines de prolongation. En tout cas, dans plusieurs régions, on a dû prolonger l'enregistrement des candidats pour la députation. C'était fixé initialement pour deux semaines, mais on a dû prolonger de 10 jours. Aujourd'hui également, prenons même la publication des résultats du référendum. La publication de tout cela avait connu aussi des problèmes. On a dépassé la date fixée. Et même pour la publication des listes des candidats à la députation nationale. Donc à tous les niveaux, on sent qu'il y a un problème de maîtrise, n'est-ce pas, du processus, ou en tout cas de différentes étapes du processus par la CEI qui se posent. Moi, je pense qu'il va falloir effectivement que la CEI sorte d'abord son calendrier électoral, et éventuellement à partir de là, le Parlement pourrait trancher la question.
Mais la CEI dit également que justifie également le fait que qu'elle a décrété le début de la campagne électorale de la présidentielle par le fait que la circonscription électorale pour les candidats présidents de la République, c'est tout le pays, tandis que la circonscription électorale pour les candidats députés est assez limitée.
Oui, donc. Oui, bien sûr.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils ont les candidats présidents de la République ont beaucoup plus de temps pour se faire connaître dans tout le pays plutôt que les députés, les candidats députés nationaux
non,
qui peuvent se faire connaître que dans une partie du pays?
L'argument est tout à fait valable et je pense que même lors du débat de la loi électorale, la plupart des députés insistaient pour qu'on donne une durée beaucoup plus longue pour les candidats présidents de la République par rapport aux candidats à la députation. Là, c'est tout à fait normal. Mais maintenant, il se pose le problème d'interprétation de ce texte. Je me dis, saisir le Parlement peut encore entraîner d'autres retards, puisque si l'interprétation ne relève que d'une faute matérielle, par exemple, où on a mal retranscrit le texte adopté par les députés, à ce moment-là, le bureau du Parlement peut répondre en 48 heures ou en une heure, enfin, en une journée. Mais s'il s'agit de modifier le contenu de la loi électorale, puisque comme on l'a dit, si cette loi a été débattue, approuvée par le Parlement, la Cour suprême de justice s'est prononcée également sur la régularité de cette loi, là il va falloir qu'il y ait encore un débat au niveau du Parlement pour que les députés modifient le contenu de l'une ou l'autre disposition.
Voilà, Wechi Amba, est-ce que vous pensez que la CEI, en s'adressant au Parlement pour trancher sur la confusion créée au sujet des articles 28 et 110 de la loi électorale, a frappé à la bonne porte? Ne fallait-il pas que la CEI puisse frapper à la porte de la Cour suprême de justice pour que cela ne puisse pas entraîner peut-être un retard?
Écoutez, moi je suis un peu contraint de répéter ce que j'avais dit tantôt, je ne sais pas si vous m'avez suivi, à savoir que tant que nous n'aurons pas le calendrier électoral, même si on fait l'interprétation des deux articles, mais on ne serait pas avancé, parce qu'il faut qu'on sache à partir de quand ça commence. Et ça ne peut se faire que dès qu'on aura le calendrier pour savoir que les élections auront lieu pour les présidentielles à telle date, si on compte les 30 jours avant.
Donc, est-ce que vous voulez dire que la confusion créée par ces deux article est dû au fait qu'on n'a pas encore de calendrier électoral. S'il y avait un calendrier électoral, fixe, il n'y aurait pas de confusion au sujet de ces deux articles.
Oui, moi je crois que le calendrier électoral est un problème fondamental. Si on l'avait, tout ceci ne se poserait pas. C'est une tempête dans un verre d'eau parce qu'on n'a pas le calendrier électoral. Parce que, comment dire, je n'ai pas les articles là sous les yeux, mais par exemple l'article, voilà, je l'ai ici, l'article 28 qui dit « La campagne électorale est ouverte 30 jours au maximum avant la date du scrutin ». Mais comment connaître la date du scrutin s'il n'y a pas de calendrier électoral? On tourne en rond. Quelle sera la valeur de cette interprétation tant que le calendrier électoral n'est pas connu, n'est pas fixé? C'est comme ça. Moi, je crois qu'il faut qu'on soit pragmatique à ce niveau-là.
Oui, Rose Lucano, est-ce que vous pensez que cette confusion favorise ceux qui ont les responsables politiques, qui ont de grands moyens, qui peuvent déjà commencer une campagne électorale qui ne dit pas son nom au détriment des autres qui n'ont pas beaucoup de
moyens? Aujourd'hui, on ne sait pas qui a des grands moyens qui ne les a pas.
Ceux qui ont, par exemple, des stations de radio et de télévision.
Ils sont déjà dans cette propagande, dans cette campagne illicite. Ils les font déjà depuis un certain temps. Alors, ça ne fait que accélérer et ils auront ainsi de l'avance par rapport aux autres, ce qui n'est pas juste.
Nous passons directement à la troisième partie de cette tribune de la presse. La haute autorité des médias menace de boycott, par la presse pendant 3 jours des activités électorales. Motif, le gouvernement doit disponibiliser 4 millions de dollars en faveur de la presse pour couvrir la campagne électorale. Suivons d'abord le président de la haute autorité des médias, Modeste Moutinga, au micro de Clara Kambundi.
En concertation avec les associations professionnelles, la Haute Autorité des médias annonce ce jour qu'à partir du 1er mai, nous serons obligés de décréter 3 jours d'embargo sur l'information électorale si on ne met pas à la disposition de la presse les moyens qu'il faut. Nous avons demandé au total 4 millions de dollars pour couvrir les besoins de l'audiovisuel public, les besoins de la presse privée, les besoins de radio communautaire et les besoins de l'Agence congolaise des presse.
Voilà, nous revenons à vous, Félix Kabouzi. Je rappelle que vous êtes directeur de publication de la Référence Plus. Est-ce que cette menace est vraiment justifiée de la part de la haute autorité des médias?
Bon, écoutez, je ne partage vraiment pas le point de vue du président de la haute autorité des médias pour plusieurs raisons. En tout cas, la première raison qui est fondamentale pour moi, je ne suis pas de ceux qui encouragent, les revendications des droits ponctuels. Moi, je pense que la presse, c'est connu, a des droits. Et l'un de ces droits, par rapport au travail que nous faisons, c'est de bénéficier de l'aide de l'État. Cette aide-là doit être une aide régulière, doit être une aide budgétisée, doit être une aide légale. Ici, je me raconte que la Haute Autorité des médias veut amener, la presse à revendiquer des droits ponctuels. Lorsque nous aurons obtenu, ou lorsque le président de la Haute Autorité des médias aura obtenu les 4 millions de dollars, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? Il va falloir encore attendre des actes ponctuels. Non, moi je pense que si mouvement de protestation on devrait mener, ça doit être pour que l'État congolais respecte le droit de la presse à pouvoir bénéficier de l'aide. Je ne pense pas que une aide, qu'elle soit de 4 millions ou même de 10 millions, donnée circonstanciellement, pourrait être vraiment un droit pour lequel il va falloir que les gens se battent. Moi, je suis de ceux qui voudraient que s'il y a mouvement de protestation contre le non-respect de l'État congolais à honorer ses obligations vis-à-vis de la presse, qu'on le fasse de manière régulière, qu'on le fasse pour, si vous voulez, au début de l'année budgétaire, qu'on se rende compte qu'effectivement, les députés ont prévu dans le budget de l'État une cagnotte pour l'aide à la presse, qu'on se rende compte que le ministre du budget, le ministre des Finances, débloque régulièrement cette aide-là. Mais si on doit chaque fois lutter pour des droits ponctuels, sincèrement, sur le plan du principe, ce n'est pas avantageux.
Voilà, Rose Lucano, qu'est-ce que vous pensez de cette menace de boycott initiée par la haute autorité de médias?
Oui, d'abord, je conteste le fait que ce soit la haute autorité de médias qui revendique en place et lieu des médias. Franchement, la haute autorité de médias, c'est un organe régulateur. Franchement, je dirais bien à M. Modeste Moutinga qu'il se limite à ses prérogatives. J'aurais voulu sincèrement Au-delà de ce que pense Félix, que ce soit ponctuel, c'est dire non, il faudrait commencer qu'un jour, quelque part. Et moi, je crois que avec les grands événements comme les élections, ça serait bon que la presse et les médias se fassent entendre sur les revendications des droits. C'est pas seulement parce que c'est ponctuel, mais il faut commencer un jour quelque part. Mais que ce soit une fois de plus la âme qui s'approprie cette mobilisation, vraiment là, c'est vraiment, je vais à l'envers. Moi, j'aurais souhaité que ce soit les syndicats des médias, donc l'UNPC par exemple, les structures, les organisations professionnelles, qui puissent mener cette démarche, cette mobilisation, pour revendiquer ce qui revient à la presse dans la couverture des élections. C'est vrai que déjà avec la campagne référendaire, nous avons constaté qu'il y a eu l'absence des médias, l'échec des médias dans cette couverture, c'est parce que effectivement les problèmes des médias, on les connaît, c'est le manque de moyens. Oui, il faut commencer quelque part à remédier à ça. Vous avez suivi au Katanga ici avec la communauté angolaise qui habite au Katanga et plus précisément à Kapoloé. Il y a eu des centaines des Angolais qui sont fait enrôler. Et tout ça, effectivement, ça a échappé même à la presse parce que nous n'avions pas pu couvrir tout l'intérieur du pays. Parce que la presse, les médias, c'est pas un secret, ils n'ont pas de moyens.
Mais Rose...
Alors, il faudrait quand même que pour les élections, nous puissions rentrer dans nos droits, avoir ces moyens-là. Mais que ce soit la âme qui s'en approprie cette revendication, moi, je suis pas du tout d'accord.
Rose Lucano, mais le problème est là. Vous avez soulevé le fait qu'il y a un problème de moyens qui a fait défaut aux journalistes, qui n'ont pas pu couvrir ce que vous aviez vous venez de dire là, notamment l'enrôlement de certains Angolais. Mais c'est peut-être la manière de demander ces fonds qui n'a pas été bien faite. Mais vous reconnaissez quand même que le problème est là et qu'il doit trouver une solution.
Effectivement, en cette période, nous devons exiger ces moyens. Pour les élections ici, les premières démocratiques, nous espérons être réellement démocratiques, nous devons avoir les moyens pour pouvoir les couvrir. Mais que ce soit la âme qui est au devant de la scène, je ne crois pas que ce soit son rôle.
Voilà.
Que fait l'UNPC par exemple et les autres structures professionnelles, elles font quoi? Ce sont elles qui devaient s'approprier cette mobilisation.
Voilà, Wechi Amba, nous vous rejoignons une fois de plus. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de congoindépendant.com, un journal qui paraît sur Internet. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est au syndicat de journalistes qu'il appartient de demander cette aide, de réclamer cette aide financière du gouvernement en faveur de la presse ou c'est la haute autorité de médias qui devait le faire?
Je voudrais faire des observations en quatre points, rapidement.
Oui.
Premièrement, moi je crois que ça fait 16 ans que ce pays est embourbé dans un processus de démocratisation qui ne prend pas fin et tous les Congolais, à travers la démocratie, espèrent l'avènement d'un État de droit, comme on le dit, c'est-à-dire un État où règne la primauté du droit. Que Congolais, petits ou grands, respectent les lois et les règlements du pays. J'ai écouté Modeste Moutinga, que je connais personnellement. Je ne l'ai pas entendu invoquer un texte légal qui confère à la haute autorité des médias le pouvoir d'agir comme il l'a fait. Moi, je crois que nous, de la presse, nous devons aussi commencer à avoir une certaine cohérence. Nous devons avoir toujours des fondements juridiques dans les actes que nous posons. C'est important. Une société sans règles, c'est l'anarchie. Deuxième remarque, je dis l'intention est bonne. Mais comme Félix Kabouis l'a dit et Madame Rose Lucano, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, a dit, écoutez, il faut éviter ce genre d'aide ponctuelle. L'aide de la presse, c'est un devoir de tout État pour permettre à tous les courants d'opinion de s'exprimer dans la paix. On aide les journaux, les organes de presse qui ont pignon sur rue. En Belgique, par exemple, le cas que je connais, lorsqu'un journal a un tirage minimum de 10 000 exemplaires, je ne compare pas ce qui se passe chez nous, ce journal a d'emblée droit au droit de la presse, à l'aide de l'État, l'aide destinée à la presse. Donc on devrait institutionnaliser cela. Et deuxièmement, là je reviens un peu à ce que j'avais dit avant sur le principe. Je crois que l'action menée par la HAM revient, comme Mme Rose Boutan l'a dit, à l'union de la presse congolaise. L'union de la presse congolaise a un but syndical. La haute autorité de médias n'est pas un syndicat de la presse, donc il faut qu'on évite une confusion de genre. Et enfin, je me pose la question, si on ne devait pas s'occuper de cette affaire d'aide à la presse en amont, c'est-à-dire lorsque la transition a commencé, est-ce qu'il ne fallait pas trouver un parlementaire ou que les hommes des médias eux-mêmes conçoivent un projet ou une proposition de loi pour institutionnaliser l'aide à la presse de sorte que ça soit budgétisé, soit en 2005 ou maintenant en 2006. Pourquoi demander maintenant? On demande quoi? Une sorte d'obol au chef de l'État pour que la presse lui en soit gré? Je me pose la question, voilà ce que je peux dire.
Félix Kabouzi, maintenant que les faits sont là, la haute autorité de médias menace d'appliquer ce boycott à partir du 1er mai pendant 3 jours. Est-ce que vous pensez que cela ira à l'encontre des intérêts de la population congolaise en privilégiant plus les intérêts de la presse congolaise?
Bon, écoutez, je voudrais compléter ce que j'ai dit tantôt pour dire qu'il n'est pas normal que quelque chose qui doit être comme un droit se transforme en une sorte de demande ponctuelle. Ça, je ne le trouve pas du tout normal. Je pense que après les élections, il va falloir attendre encore 5 ans pour que la presse réclame ses droits d'aide de la part de l'État. Ce ne serait pas normal.
Donc, je
pense que si on devrait menacer ou on devrait décréter un embargo, il faut le décréter pour obtenir une aide légale de l'État, mais pas une aide ponctuelle. Ça, vraiment, par principe, je ne suis pas d'accord. Je crois que les journalistes congolais savent que l'État congolais a le devoir de les assister. Et ça, c'est un droit qui est même prévu dans la loi sur la presse. C'est prévu que l'État doit aider la presse congolaise. Mais dans la pratique, cela ne se fait pas. Ce serait plus intéressant qu'on décrète même tout un mois de boycott des informations sur les institutions politiques, pourvu que l'État congolais, à partir du Parlement, des ministres et tout le monde, puisse effectivement appliquer la loi sur la presse qui enjoint l'État à aider la presse d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est de deux. Moi, je pense que ça risque d'être inefficace aussi. Vous savez, comme Rose Lucano l'a dit tout à l'heure, en fait, la presse aujourd'hui, elle est plus ou moins à 60% contrôlée par les acteurs politiques, que ce soit la presse audiovisuelle ou la presse écrite. Imaginez que l'on mette effectivement en pratique cette menace. Est-ce qu'un certain nombre de chaînes de télévision dont les propriétaires sont dans l'espace présidentiel ou dans les partis politiques, est-ce qu'ils vont respecter cet embargo? Je crois que ça sera complètement inefficace. Sur la 50aine de télévision que nous comptons aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, faites les comptes. En tout cas, les acteurs politiques probablement dirigent 20 à 25%. Il y a les confessions religieuses et il y a très peu de chaînes vraiment qui peuvent se réclamer de professionnels de la presse. Et la même chose également pour les journaux privés.
Rose, est-ce que vous pensez que ce n'est pas là le moment de réclamer justement l'institutionnalisation d'une aide à la presse au lieu de demander une aide ponctuelle comme ça?
Il faut plutôt l'institutionnalisation, elle existe, l'aide à la presse, elle est légale.
Mais elle n'est pas concrétisée jusque-là.
Qui n'est pas du tout effective. Moi, je pense, je remercie peut-être la HAM d'avoir porté plus haut cette préoccupation, mais que j'insiste encore, que ce soit les syndicats, les organisations professionnelles qui s'en approprient, qui récupèrent ça pour réclamer. Mais quitte à faire un embargo de 3 jours, Félix a parlé d'un mois ou même 2 mois, mais non, nous allons pénaliser tout simplement nos populations qui, malgré tout, ont besoin de nos informations que nous véhiculons. Je ne pense pas que ce soit ce qu'il faut en ce moment. Il faut réclamer cette aide avant les élections et le plus vite possible et par les organes compétents en cette matière.
Fin de cette tribune de la presse qui a planché sur 3 sujets, la visite de 3 jours du président de la Commission de l'Union africaine, Alpha Oumar Konaré, confusion autour de la date du début de la campagne électorale pour la présidentielle et la menace de boycott par la presse des activités électorales, menace initiée par la haute autorité de médias. Nous avions reçu deux confrères et une consoeur, Rose Lucano Chapuisa, directrice générale de la radio-télévision Mwangaza de Lubumbashi, Félix Kabouizi, directeur de publication de la Référence Suisse, un quotidien d'information générale paraissant Kinshasa, et Wechi Amba, rédacteur en chef de congoindépendant.com, un journal qui paraît sur Internet. Merci, bon week-end et à lundi prochain.